This is Radio France International.
De Paris, RFI, $100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir avec Xenia Jornoclé de la rédaction ukrainienne. Qui était en Allemagne et qui vient de passer trois jours là-bas avec les sapeurs d'assaut ukrainiens au sein des forces européennes. Les Tuang de la rédaction vietnamienne.
Si, ciao.
Pour nous parler de la visite du président chinois au Vietnam, justement, trois mois après celle de Joe Biden. Et pour la rédaction en cambodgien, Pizemam.
Sousnei.
Au sujet de la visite du nouveau premier ministre cambodgien, Hun Manet, au Vietnam voisin. Mais d'abord, revenons sur la COP28 qui s'est achevée cette semaine à Dubaï. Pour la première fois, les pays du monde entier ont approuvé, lors de cette conférence sur le climat de l'ONU, un compromis ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, lesquelles sont responsables du réchauffement de la planète. Cela à la fin d'une année 2023 qui sera la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire. Malgré de nombreuses concessions aux pays riches en pétrole et en gaz, il aura fallu près de 30 ans à la COP pour arriver à ce début de la fin des énergies fossiles, relève le commissaire européen au climat. Pizemam, dans les dernières heures de cette grande conférence internationale, on croyait à un fiasco et finalement, il y a eu une bonne surprise.
Oui, en effet, Philippe, le choix d'organiser cette 28e conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï a été déjà très critiqué dès le départ, surtout de la part des ONG environnementales. À l'heure où les climatologues pointent du doigt sur les énergies fossiles comme responsables de 75% des émissions de gaz à effet de serre, le fait d'organiser ce rendez-vous crucial dans un pays pétro-monarchie comme celle des Émirats arabes unis, est plus que critiquable. Le sultan Al-Jaber, président de COP28 qui coordonne toutes les négociations, est aussi le patron de la compagnie nationale d'hydrocarbures des Émirats arabes unis. D'autant plus cette ville de Dubaï, très énergivore, est tellement en décalage par rapport aux valeurs écologiques. Tous les partis s'inquiétaient car quelques jours avant la clôture, il y a eu une polémique liée à une lettre de l'OPEP.
On y reviendra dans un instant
à
d'ailleurs.
À ces pays membres et pays partenaires.
En quoi cet accord à l'issue de cette COP28 est historique? Pourquoi tout le monde le qualifie d'historique?
Alors, pour la première fois, Philippe, depuis que cette conférence existe, le mot énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole, gaz et le charbon, sont mentionnés. Et même si l'accord ne prévoit pas clairement la sortie des énergies fossiles, mais les pays s'engagent à s'éloigner de ce type d'énergie jugée trop polluante. Afin d'arriver à un compromis général, le terme « phase out », traduit en français comme « sortie ou éliminer pur et simple », a été évité. Il a été remplacé par le terme « transitioning away », jugé plus nuancé. Le texte adopté le 13 décembre prévoit donc une transition hors des fossiles pour arriver à la neutralité carbone en 2050, avec une accélération au cours de cette décennie. Le sultan Al-Jaber affirme que ce texte équilibre et marque un tournant historique dans l'histoire de la lutte contre le réchauffement climatique. Et selon le cabinet de la ministre française de la transition énergétique, il y a eu un engagement personnel du sultan Al-Jaber qui a joué un rôle important pour la France. La présidente émirati est un exemple de présidente réussie.
Xenia Pizet y faisait allusion il y a de cela quelques secondes. Peut-être que cet accord aurait pu ne pas être adopté car il y a eu cette manœuvre de l'OPEP dont le chef avait adressé une lettre à ses pays membres pour qu'ils rejettent tout accord ciblant les énergies fossiles. Une position de l'OPEP qui a suscité la controverse et la France a exprimé son indignation.
Oui, tout à fait. L'agence France Presse rapporte que 13 États membres de l'OPEP et 10 autres pays producteurs de pétrole, dont la Russie, ont reçu un appel écrit du secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Gessas, demandant que toute mesure progressive visant à sortir de la dépendance pétrolière soit bloquée dans l'accord final du COP28. Selon l'AFP, dans cette lettre, le chef du cartel exhorte les membres de l'OPEP de leur délégation à la COP28 à rejeter activement tout texte ou langage qui se consacre sur l'énergie, c'est-à-dire les combustibles fossiles, plutôt que sur les émissions de gaz à effet de serre. L'agence précise que la lettre a été envoyée à 10 pays associés, dont le Mexique, l'Azerbaïdjan, la Russie et la Malaisie, dont les délégations sont présentes à Dubaï. Il est souligné que parmi les 13 États membres de l'OPEP qui ont reçu le message se trouvent les Émirats arabes unis, qui président cette année la conférence des Nations unies sur le climat. À Dubaï, la ministre française de l'énergie, Agnès Pannier-Runacher, a déclaré qu'elle est choquée par les déclarations de l'OPEP et je cite « la position de l'OPEP met en danger les pays les plus vulnérables et les populations les plus pauvres de la planète qui sont les premières victimes du réchauffement climatique ».
Finalement, cet accord donc a eu lieu hein, dans les toutes dernières heures. Pour autant, Pizet, plusieurs experts soulignent les faiblesses de ce texte, notamment le manque de mécanismes contraignants et puis la question du financement qui n'est pas réglée.
Oui, Philippe, c'est vrai que certains experts le voient comme un très grand pas historique, alors que certains autres se sont restés sur leur faim. Le texte négocié à Dubaï est faible par sa nature non contraignante et repose uniquement sur la bonne volonté de chaque pays. Son succès dépendra donc des politiques mises en œuvre dans les mois à venir. Ce qui veut dire aussi que les gouvernements devraient adapter leur trajectoire de production et de consommation des énergies fossiles s'ils veulent respecter l'accord de Dubaï. Reste que les engagements pris par les États doivent aussi pouvoir se concrétiser. Le principal souci de l'accord de Dubaï est qu'il a totalement laissé de côté l'un des leviers de l'action climatique, c'est-à-dire le financement. Il est impossible de demander à des pays en développement de sortir progressivement du pétrole ou de charbon s'ils n'ont pas les moyens d'investir dans un nouveau système énergétique, Philippe. Et selon Guillaume Compagne de l'ONG Oxfam, cet accord a le mérite d'envoyer un signal sur la fin de l'ère énergie fossile. Mais pour l'instant, ça reste d'une certaine façon une coquille vide, car on ne voit pas comment toute une partie des pays seront soutenus en matière de transition énergétique. L'accord de Dubaï marque donc un point de départ important, Philippe, mais ce n'est absolument pas un aboutissement.
Et puis, Xenia, parlez-nous de cette visite de Vladimir Poutine aux Émirats. C'était le 6 décembre, trois jours avant l'appel de l'OPEP, hein, dont on parlait il y a de ça quelques instants. Comment interpréter ?
Alors, la visite express de Vladimir Poutine dans la péninsule arabique avait pour le but de négocier les volumes de production de pétrole au sein de l'OPEP. Mais effectuée au moment où la conférence des Nations Unies sur le climat à Dubaï discute d'une éventuelle élimination progressive de combustibles fossiles, cette visite ne fait que souligner les divergences de concepts climatiques entre les dirigeants russes et une grande partie de la communauté scientifique internationale. Certains chercheurs russes considèrent aujourd'hui que le changement climatique comme un nouveau facteur de développement de l'économie mondiale et russe. Les analystes du centre, par exemple hydrométéorologique russe, citent les chercheurs et les experts américains qui estiment que la Russie est peut-être le seul pays au monde qui pourrait connaître une croissance du PIB allant jusqu'à 0,6% après 2050.
Autrement dit, la Russie dit qu'elle a besoin de pouvoir recourir aux énergies fossiles pour pouvoir se développer.
Oui,
hein, c'est
oui.
Ça. Les Tuang, à cette COP28, on parle de transition hors des énergies fossiles, hein, les mots sont importants. Or, le Vietnam s'était prononcé en faveur de cet engagement il y a déjà 2 ans, c'était à la COP organisée à Glasgow.
Voilà, c'est effectivement, le Vietnam a créé une surprise en prenant des engagements ambitieux durant la COP26 en 2021. Ça veut dire que se passer du charbon durant la décennie 2040 et atteindre un bilan neutre en émissions carbone d'ici en 2050, le Vietnam faisait partie des 5 pays non insulaires les plus vulnérables aux effets du changement climatique, on est consciente. Pourtant, le premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, dans son discours à la COP28, a insisté sur l'entraide et la coopération entre les pays développés et les pays en développement et sous-développés. D'après lui, les pays en développement et sous-développés doivent redoubler d'efforts pour ne pas rester passifs, pour améliorer leur capacité, être autonome et se relever avec l'esprit que personne ne peut faire mieux pour eux qu'eux-mêmes. Cela signifie garantir l'indépendance et la sécurité énergétique nationale, ainsi que l'accès à une énergie propre à un coût approprié et efficace pour que toutes les entreprises, les citoyens et chaque pays.
Le Vietnam fait donc partie de quatre pays qui ont soutenu la transition énergétique en signant un accord. C'était en décembre 2022.
Alors, c'est d'après l'accord qui a été signé en fait en 2022, qui devrait aider en fait le Vietnam à atteindre un pic d'émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d'énergie d'ici 2030, plutôt que la précédente projection en 2035, et à en réduire considérablement les émissions de CO2 du secteur à 160 millions de tonnes d'ici 2030 et à 1001 millions de tonnes d'ici 2050. Et pour atteindre cet objectif, il est prévu qu'à ce même horizon 2030, les énergies renouvelables représentent 47% du bouquet énergétique et à 58% en 2050. Et enfin, le programme de construction de nouvelles centrales à charbon est censé être réduit pour atteindre un pic de capacité installé à 30,2 gigawatts.
Il reste divers freins à atteindre, à enlever finalement, à faire sauter pour atteindre ces objectifs. Vous le disiez, hein, on est censé. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, donc là, on a vu, il y a un contraste entre l'ambition de restructurer l'économie pour favoriser une croissance moins consommatrice de carbone avec les pratiques. Parce que, par exemple, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce semble attacher une importance particulière au maintien d'une électricité bon marché pour continuer à attirer des investissements étrangers, en particulier dans le secteur de la production industrielle. Et les projections énergétiques montrent par ailleurs que le Vietnam continuera à dépendre des combustibles fossiles au cours des prochaines années. Et enfin, il s'agit aussi de l'importance du montant de l'investissement requis, cela dans un climat de prudence quant à l'endettement public et un environnement des affaires peu incitatif.
Concernant le Vietnam, est-ce qu'on peut considérer qu'il est déjà un bon élève, qu'il a accéléré sa stratégie de sortie de l'énergie fossile ?
Voilà, parce que le Vietnam a fait un pas pour accélérer aussi sa stratégie. Donc, le gouvernement vietnamien a organisé à Dubaï avec le groupe des partenaires internationaux une conférence sur le plan de mobilisation des ressources. Donc, on a parlé aussi, ça c'est la première étape importante pour la mise en œuvre du JETPI. Et le plan comprend une évaluation des investissements prioritaires, notamment les projets d'investissement prioritaires dans les domaines liés au JETPI. Et les partenaires internationaux ont d'ailleurs demandé au gouvernement vietnamien de mener des réformes politiques pour contribuer à accélérer l'approbation des procédures, créant ainsi des conditions favorables à des investissements supplémentaires. Et d'après un projet en octobre que Reuters a pu consulter, 400 projets pourraient recevoir des aides financières de G7, dont 272 projets sur les énergies renouvelables.
Xenia, autre chose concernant cette COP. Pour la deuxième fois de son histoire, l'Ukraine y a présenté son propre pavillon. Quelle a été la réaction des Ukrainiens des Émirats à la réception de Vladimir Poutine dans ce cadre-là ?
Oui, Philippe, pendant la conférence, l'Ukraine a tenté de montrer au monde les conséquences de l'explosion de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, les dégâts causés par la guerre et la façon dont les Ukrainiens reconstruisent ce qui était détruit. Cette année, l'accent a été mis sur l'impact de l'agression russe sur le climat, sur l'environnement et sur la vie et la santé de la population. Également, la reconnaissance et la lutte contre l'écocide, la reconstruction écologique de l'Ukraine et la traduction en justice de la Russie. Un événement important était le lancement de la plateforme mondiale pour l'évaluation des dommages causés par la guerre russe. Étant donné que la plateforme de la COP28 est destinée non seulement à montrer les conséquences de la guerre sur l'environnement et le climat, mais aussi à unir et à élargir la communauté internationale pour parvenir à la justice et à la paix, la visite de Vladimir Poutine à Abu Dhabi a bien sûr été perçue par de nombreux Ukrainiens comme une manifestation de respect, d'ignorance de la question ukrainienne et de manque de sincérité. Les représentants de la diaspora avec lesquels je me suis entretenue étaient sincèrement contrariés et considèrent la visite aux Émirats par Poutine comme une preuve d'hypocrisie.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette COP28 et les enseignements à tirer dans Accent du Monde sur RFI. 20 heures
Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Xenia Jornoclé de la rédaction ukrainienne, vous vous êtes rendue ces derniers jours sur une base d'entraînement militaire qui se trouve dans le nord de l'Allemagne. C'est là que des instructeurs de la Bundeswehr forment des sapeurs ukrainiens.
Oui, tout à fait. Je suis allée lundi dans le nord de l'Allemagne où, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, des experts militaires ont commencé à former des soldats ukrainiens. Et pas seulement des sapeurs, mais des sapeurs d'assaut. La différence, c'est que les sapeurs n'ouvrent généralement que les passages minés pour l'infanterie et les véhicules, et les sapeurs d'assaut continuent avec eux. La cinquantaine de soldats ukrainiens que j'ai rencontrés dans cette base est là pour un entraînement de 21 jours. Alors, à l'aube, quand je me suis rendue sur le champ, le commandement a demandé aux soldats d'enlever les casques. Il a eu une minute de silence en mémoire des soldats ukrainiens tombés. Et les instructeurs allemands baissaient également la tête. Puis, les explosions d'exercice commencent. Ici, les Ukrainiens apprennent à détecter et à désamorcer les mines de différentes manières, à marquer le territoire, et on leur montre différents types d'explosifs.
Vous avez été encadré par un officier ukrainien qui faisait office de traducteur.
Oui, il travaille comme sapeur depuis 15 ans. Je n'ai pas le droit de citer son nom, bien sûr. Il a une expérience de combat et il peut reconnaître, selon lui, le type d'explosif à l'odeur qui s'en dégage après la détonation. J'ai parlé avec plusieurs soldats ukrainiens et, par exemple, l'un d'entre eux, Dmitro, avant cela, il n'avait aucune expérience militaire et même pas au début de l'agression russe. Il est ingénieur mécanique de formation et en juin l'année dernière, il s'est engagé dans les forces armées. Puis il a suivi une formation à Kiev et il se trouve maintenant ici en Allemagne. Selon lui, les connaissances acquises en Ukraine et en Allemagne sont presque les mêmes, mais l'essentiel est de pouvoir les appliquer correctement. J'ai rencontré des personnes d'horizons différents et environ la moitié des Ukrainiens qui viennent ici ont un certain niveau de connaissance militaire et même une expérience de combat. Et l'autre moitié n'en a pas. Le plus jeune soldat qui est passé par cette base avait 18 ans et le plus âgé 56.
Et vous avez trouvé des gens dans quel état d'esprit ?
Alors, les soldats ukrainiens, je les trouvais très déterminés, motivés, sous le contrôle. Ils savaient très bien ce qu'ils font et je pense qu'ils sont très motivés de rentrer en Ukraine et de pouvoir appliquer les connaissances qu'ils ont acquises ici en Allemagne.
Au terme de cette formation, qui s'inscrit dans quel cadre ? Quel programme ?
Alors, la formation dispensée sur cette base militaire s'inscrit dans le cadre de l'EMAM Ukraine. C'est la mission militaire de l'Union européenne visant à renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Il s'agit du premier programme de ce type dans l'histoire de l'Union européenne lancé par Bruxelles en octobre dernier. Et d'ailleurs, en octobre 2022, le gouvernement russe prévenait que cette mission ferait de l'Union européenne une partie au conflit. Mais cela n'a pas arrêté l'Europe. Et selon l'attaché de presse en chef de l'EMAM, Thomas Overbuch, qui était avec nous pendant 3 jours, qui était là, depuis le début de l'année, l'Allemagne a formé déjà près de 9000 soldats ukrainiens. Et d'ici à la fin de l'année, ce chiffre va être dépassé. Il note que la mission est très flexible et que le commandement essaie de s'adapter aux besoins de l'Ukraine avec l'expérience que l'Ukraine a acquis au front. Et puis, il ajoute, je vous propose d'écouter...
We do more of a specialized training, and we also react to the needs and demands of the Ukraine. And we,
que vous a-t-il dit ?
Oui, alors là, il ajoute, il explique qu'habituellement, l'armée aime tout planifier à l'avance. Mais avec le début de cette guerre, ils ont dû réagir rapidement. Leur travail dépend donc des besoins de l'Ukraine et il faut s'adapter. Quand les Ukrainiens arrivent sur la base, il faut d'abord assurer leur intendance tout ce dont ils ont besoin. Et c'est qu'ensuite que les formateurs se mettent au travail. Puis, il explique aussi qu'il y a des traducteurs quand les Ukrainiens ne parlent généralement ni allemand ni anglais. Et il m'a aussi raconté que grâce aux militaires ukrainiens, les Allemands ont beaucoup appris sur les tactiques des soldats russes et sur leur façon de travailler. Beaucoup d'Ukrainiens qui viennent ici ont une expérience du front, ils connaissent des choses nouvelles et ils partagent ça avec les enseignants allemands.
Et puis il y a les mines russes qui sont l'une des raisons pour lesquelles cette contre-offensive de l'été des forces armées ukrainiennes n'a pas eu l'ampleur escomptée. Beaucoup de travail sera nécessaire, même après la guerre, de la part de ces sapeurs.
Oui, tout à fait. L'Ukraine est le pays le plus miné au monde, avec une superficie équivalente à celle de la Floride, par exemple.
La Floride aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Il s'agit non seulement de mines, mais aussi d'autres munitions non explosées qui représentent un danger. L'armée ukrainienne estime qu'il lui faudra environ 50 ans pour achever ce déminage. On estime aussi qu'environ un tiers du territoire ukrainien devrait faire l'objet d'opérations de nettoyage longues, coûteuses et dangereuses.
Et justement, donc en Allemagne, la formation inclut le déminage.
Oui, la tâche des formateurs n'est pas seulement d'enseigner aux sapeurs ukrainiens comment déminer le territoire, mais aussi de le faire dans les conditions de combat, lorsque l'ennemi ne permet pas le déminage tout court. C'est pourquoi les soldats ukrainiens répètent des dizaines de scénarios différents dans lesquels ils doivent non seulement détecter et désamorcer les mines, mais aussi de tirer, de riposter au tir d'ennemis. Et les Ukrainiens apprennent à travailler en groupe. Certains font de la reconnaissance sur terrain, d'autres trouvent des mines, d'autres encore se mettent à couvert. Et dans le scénario suivant, ils changent de rôle. Enfin, chacun doit suivre un cours de médecine tactique avancée pour être en mesure de donner des premiers soins à un blessé sur le champ de bataille. Et les groupes formés, ici en Allemagne, lors des exercices, resteront constitués lorsque les soldats vont retourner en Ukraine. Nous avons aussi pu parler au commandant Stefani. Voici ce qu'il nous a expliqué.
Mit sechs weiteren Nationen, mit Norwegen, Litauen, Belgien, Niederlande, UK.
Oui, alors elle dit que son équipe de formation est internationale avec des soldats de Norvège, de la Lituanie, de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Slovénie. Toutes ces personnes ont des connaissances spécifiques. Mais pour les acquérir, il faut connaître l'allemand ou au moins l'anglais. Or, la plupart des soldats ukrainiens ne parlent pas la langue étrangère. Dans le cas de sapeurs, où, par exemple, la connaissance n'est pas vraiment nécessaire. Et pendant les exercices, les interprètes, quand même, ils sont présents. Ils travaillent avec l'armée ukrainienne. Parce qu'un mot mal traduit ou oublié pendant les exercices peut avoir de graves conséquences sur le champ de bataille.
Xenia Gendreclé de la rédaction ukrainienne, de retour de ce camp d'entraînement dans le nord de l'Allemagne. Le Vietnam est très courtisé diplomatiquement en ce moment. Trois mois après la visite du président américain Joe Biden, le président chinois a effectué une visite officielle de deux jours au Vietnam. C'était les 12 et 13 décembre, cette semaine donc. Les Tuang, ce déplacement vise à réaffirmer l'importance de la Chine sur son voisin et à contrecarrer l'influence des États-Unis, en particulier donc à la suite de la visite de Joe Biden.
Oui, alors c'est exact, parce que le Vietnam privilège depuis longtemps une stratégie dite la diplomatie du bambou, c'est-à-dire qu'une politique flexible et à nos échanges aussi à diversifier ses partenaires en évitant la dépendance à un seul, dont le cas de la Russie, fournisseur d'armes principal du Vietnam, impliquée dans la guerre avec l'Ukraine en ce moment. Le Vietnam attribue l'importance à ses partenaires par différents degrés, dont le plus élevé est le partenariat stratégique global, et lequel a été signé par le Vietnam et les États-Unis lors de la visite de Joe Biden en septembre dernier, avec de grands projets d'investissement américain. Et après les États-Unis, le Vietnam a aussi signé un accord de cette nature avec le Japon en novembre et bientôt avec l'Australie.
Pour autant, on peut dire que le Vietnam ne cherche pas à fâcher la Chine.
Voilà, c'est exact, parce que la Chine, c'est le premier partenaire commercial du Vietnam et elle partage la même idéologie avec Hanoï. Et sur cette question, nous avons posé la question au chercheur Hoàng Việt, Université de droit à Ho Chi Minh Ville. Écoutons-le.
Chúng ta đã thấy là Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên mà Việt Nam thiết lập cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Alors, il a expliqué que jusqu'à présent, six pays sont devenus des partenaires stratégiques globaux du Vietnam, mais la Chine est le premier. Et dans leur déclaration, les dirigeants vietnamiens affirment toujours que, dans la politique étrangère du Vietnam, la Chine est toujours la priorité absolue. Et c'est normal, car premièrement, la Chine est la plus grande puissance d'Asie et la deuxième puissance mondiale. La Chine est le voisin du Vietnam et à travers des milliers d'années d'histoire, le Vietnam comprend le prix à payer pour être à côté d'un géant. S'il veut se développer, il doit y avoir la paix. Et pour avoir la paix, il lui faut entretenir de bonnes relations avec la Chine.
Le Vietnam a également répondu aux exigences du côté chinois concernant l'accueil du président pour démontrer la supériorité de ce dernier à son homologue américain. Expliquez-nous.
Alors, c'est aussi la remarque du chercheur vietnamien que nous avons interviewé. Écoutons-le.
Et quand, bien sûr, dans le buổi đón tiếp ông Tập Cận Bình so với cả ông Biden.
Alors, il a expliqué qu'il y avait des différences entre l'accueil de Xi Jinping et l'accueil de Joe Biden. Les États-Unis et Joe Biden lui-même n'ont pas exigé le déroulement d'un tapis rouge pour accueillir Biden à l'aéroport, la cérémonie de le tir de 21 coups de canon. Et pour l'Amérique, ce qui est important, c'est de faire avancer les choses, pas les rituels. Mais pour la Chine, il s'agit d'une rencontre très symbolique, à la fois en tant que les deux pays socialistes et en tant que deux pays voisins, et dans le contexte d'une concurrence féroce entre les États-Unis et la Chine, Pékin attache une grande importance au protocole, et cela se fait d'un commun accord entre les deux parties.
Encore une chose, il semble que le Vietnam change de position sur le projet de nouvelle route de la soie de la Chine.
Alors, on remarque quelques signes dans des déclarations récentes d'Anne. Par exemple, le président vietnamien a participé en fait, au forum de la route de la soie organisé en octobre dernier à Pékin. Et pendant la visite de Xi Jinping, les deux pays ont signé de mémorandums de coopération relatifs au chemin de fret et au fret. Parce que le Vietnam se voit être concurrencé en ce moment par le Laos et le Cambodge qui ont été massivement investis par la Chine.
Lê Thu Hằng de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Autre visite au Vietnam, décidément, celle du nouveau Premier ministre cambodgien, Hun Manet. Première visite officielle, d'ailleurs, pour lui, Pizemam de la rédaction cambodgienne. Une visite importante, hein, compte tenu des liens historiques du Cambodge avec le Vietnam dont on vient de parler.
Oui, Philippe, comme à chaque fois quand il y a des visites de dirigeants vietnamiens au Cambodge ou vice-versa, cela remue presque toute la société cambodgienne, le Vietnam et le Cambodge. C'est une histoire sans fin, remplie de querelles territoriales, migratoires et idéologiques. Il faut rappeler, Philippe, que le Parti du peuple cambodgien, à la manette du pouvoir cambodgien depuis presque 40 ans maintenant, est un héritage direct du Parti communiste vietnamien. Ce parti aime nous rappeler que la chute du régime de Khmer Rouge en janvier 1979, c'était possible grâce à l'intervention de l'armée vietnamienne. Par contre, certains ont refusé d'appeler ça la libération, mais plutôt une invasion vietnamienne. Une partie intellectuelle nationaliste et d'opinion publique cambodgienne soupçonne toujours l'ambition vietnamienne au détriment du territoire et du peuple cambodgien. Donc la visite du nouveau Premier ministre cambodgien Hun Manet à Hanoï le 11 décembre sonne comme une sorte de présentation que le pouvoir de Phnom Penh souhaite recevoir la confirmation de la part de son grand frère vietnamien. D'autant plus, M. Hun Manet venait d'être nommé vice-président de son parti. En tout cas, c'est ce qu'explique M. Aung San Han, un ancien député d'opposition.
Aidez-nous à comprendre.
Alors, selon lui, le dirigeant de PPC qui prennent le pouvoir aux postes les plus importants doivent traditionnellement aller à Hanoï pour se présenter aux dirigeants du Parti communiste vietnamien. À l'instar de M. Hun Manet, à peine nommé Mme Khun Sodari, nouvelle présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, elle aussi est allée à Hanoï. Hun Manet a été nommé premier ministre et depuis quelques jours, il est devenu vice-président du parti. Il est donc logique qu'il fasse ce voyage. D'après Aung San Han, Hanoï détient toujours une forte influence sur le PPC. Afin que l'ascension de Hun Manet se fasse en douceur et sans porter atteinte à l'unité du parti, le soutien de Hanoï est plus que nécessaire. Un avis partagé aussi par M. Kim Sok, un commentateur politique cambodgien.
Que dit-il?
Alors, selon lui, le Parti communiste cambodgien, l'ancêtre de PPC actuel et le Parti communiste vietnamien sont liés par un pacte de fraternité dans la lutte pour la libération de l'Indochine. Les dirigeants cambodgiens doivent faire un rapport régulier et tenir au courant le Vietnam de ce qui se passe dans le pays. Selon lui, Hun Manet ne fait que suivre le chemin tracé par les anciens dirigeants du PPC, dont son père Hun Sen.
D'un point de vue économique, le Cambodge a besoin de ces deux grands pays que sont la Chine et le Vietnam.
Le Vietnam, effectivement, Philippe, même si les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Cambodge ont beaucoup progressé ces dernières années, mais les investissements chinois sont très bien implantés au Cambodge, notamment dans le secteur immobilier et la manufacture. Mais l'économie vietnamienne est en pleine croissance dans tous les domaines. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial pour le Cambodge parmi les pays de l'ASEAN et troisième après la Chine et les États-Unis. Le Vietnam est le plus grand acheteur des produits agricoles cambodgiens, Philippe. Alors, il est dans son intérêt économique pour le Cambodge, que le Cambodge doit trouver cet délicat équilibre pour ne pas tomber dans les pièges de jeu rivalité entre la Chine et le Vietnam.
Pizemam de la rédaction cambodgienne de RFI, c'était Accent du Monde réalisé par Laurent Philippot ce soir à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI www.rfi.fr.